Bonjour, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, on visite la cité des électriciens réhabilités dans le Nord. Ensuite, on va tester une machine à laver increvable, paraît-il. Et enfin, on surfe sur une vague artificielle sur un lac en Isère. Mais avant ce beau programme, c'est l'actu de ce vendredi 17 mai. Bonjour Denis Farouf.
Bonjour Frédéric Le Tournier, bonjour à tous.
Nicolas Sarkozy sera sans doute jugé en correctionnel dans l'affaire Big Malion.
Le financement présumé illégal de sa campagne électorale de 2012. Le Conseil constitutionnel a rejeté son recours, Nicolas Ballu.
Oui, un procès Big Malion avec Nicolas Sarkozy est désormais probable. Un coup dur pour l'ancien président.
Le 80 km/h sur la route a vécu.
Disons que chaque département va décider de maintenir le 80 km/h ou de revenir à 90.
Le remboursement par la Sécu de l'homéopathie a du plomb dans l'aile.
On en est qu'au premier avis de la Haute Autorité de la Santé, mais il est négatif.
Et la journée mondiale contre l'homophobie se décline aussi dans les stades de football.
Oui, ce soir et demain, lors des journées de Ligue 2 et de Ligue 1.
Et puis on passera par le festival qui fait parler.
Le festival de Cannes.
Pas seulement, il faut découvrir le festival de la Coupe Mulet, avec cheveux longs sur la nuque et court ailleurs.
Alors attention, ça ne va pas à tout le monde.
Bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farouf sur France Bleu.
La nouvelle est tombée dans la matinée. Le Conseil constitutionnel a rejeté l'un des derniers recours déposés par Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion.
Ce qui veut dire qu'il y aura sans doute un procès pour l'ancien chef de l'État. Ça veut dire qu'un retour éventuel de Nicolas Sarkozy aux affaires semble compromis, Nicolas Ballu.
Alors, je vais apporter un double bémol. Un homme politique n'est jamais tout à fait mort, quel qu'il soit.
Certes.
Et pour le procès Big Malion, il faut encore que la Cour de cassation délivre son arrêt. Maintenant, c'est vrai, la petite musique possible du retour politique régulièrement évoquée qui est à droite, eh bien cette petite musique risquerait de ressembler à une suite de couacs. Un procès Big Malion probable à l'horizon 2020. N'oublions pas qu'il y a également le dossier des écoutes d'un haut magistrat. Nicolas Sarkozy est mis en examen pour corruption et trafic d'influence.
L'ancien président est également mis en examen dans l'affaire du financement libyen de sa campagne.
Exactement. Et d'autres dossiers sont en cours, comme les sondages de l'Élysée. Ces affaires vont arriver à leur terme. Un ancien président au tribunal a-t-il un avenir politique ? Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy reste influent à droite. C'est le sage qui prodigue ses conseils et que tous les élus veulent voir. Il existe dans le paysage politique. On entend souvent qu'Emmanuel Macron et lui se parlent et se voient beaucoup. Dans leur livre sur la droite des années Sarkozy, La haine, Fabrice Lhomme et Gérard Davet citent le politique qui le connaît le mieux, Brice Hortefeux. Je cite « Nicolas Sarkozy sait au fond de lui qu'il ne reviendra pas, mais il a besoin d'exister. C'est son existence politique et son image présidentielle qui se joue là. »
Nicolas Ballu sur France Bleu.
Quand on disait hier que le Premier ministre entrouvrait une porte au retour du 80 km/h, c'était même une porte grande ouverte.
Oui, quelques heures plus tard, les députés adoptaient un amendement permettant au département de relever la vitesse sur les routes secondaires. Le président de la Corrèze, Pascal Coste, ne cache pas sa satisfaction avec un petit coup de griffe au passage à Édouard Philippe.
Eh bien, moi, je vous le dis, le président du département de la Corrèze assumera ses responsabilités et repassera en Corrèze le réseau structurant, c'est-à-dire sur 4700 km, autour de 1000 km, à 90 km/h. Et ce Premier ministre serait quand même bien avisé de faire confiance aux collectivités locales pour pouvoir appliquer un certain nombre de mesures.
La présidente du département du Doubs est plus mesurée, mais elle va étudier le sujet. Christine Bouquin.
On va regarder section par section et faire des propositions. Alors c'est à double tranchant parce que il est vrai que si, par malheur, il y arrivait des accidents précis sur des sections où nous aurions remis les 90 km/h, nous serions là, en ligne de mire, et il faut vraiment appréhender les choses. Et moi, je prendrai le temps d'une analyse très fine et de concertation avec les usagers, la commission de sécurité routière et puis les citoyens.
Christophe May et Philippe Graziani de France Bleu Besançon et Limousin à la rencontre des présidents des départements.
L'abaissement de la vitesse sur les routes secondaires était dans le viseur des Gilets jaunes, comme le prix des carburants au début du mouvement qui a commencé il y a 6 mois aujourd'hui.
6 mois aujourd'hui, dans le secteur de Saint-Brieuc, où le mouvement a été très suivi au début, un noyau dur continue de se retrouver chaque semaine. Et en 6 mois, ils ont tissé des liens assez forts entre eux, Johan Moison.
Oui, il est 19h30, c'est l'heure de la réunion hebdomadaire du groupe de Gilets jaunes du secteur de Saint-Brieuc. Il y a là un peu plus d'une trentaine de personnes, l'ambiance est détendue. Dani, l'une des initiatrices du mouvement dans les Côtes d'Armor, vient d'arriver en ambulance. C'est son travail. Certains ici sont devenus ses amis.
Il y a des liens qui sont. On est humain, on a un cœur. Il y a des gens qu'on apprécie et qui font partie de nous maintenant. Je dirais qu'il y a des fois, je vois beaucoup plus souvent les gilets jaunes que ma famille. Mes amis hors gilets jaunes, je ne les vois quasiment plus.
À côté, Fernand, 80 ans, est le doyen du groupe.
Notre Fernand national.
Il vit seul chez lui. Ses enfants et petits-enfants habitent la région parisienne.
Je connaissais personne et aujourd'hui, c'est une grande famille. Ça fait plaisir d'être bien accepté déjà. Quand on est en manif, ils me recherchent et ils se demandent où je suis. Mais je suis là toujours. Je ne vois pas le temps passer. Que là, vous voyez, on est en réunion, je QG tous les jours.
Le 17 novembre, Alexandre ne connaissait personne, lui non plus, parmi les gilets jaunes. Et maintenant, il en retrouve en dehors du mouvement.
On fait des soirées tous ensemble, enfin, une bonne partie. En général, on est au moins une vingtaine. On ne parle pas du mouvement, on parle de nous, de nos problèmes, de notre vie. On coupe les gilets jaunes.
Est-ce qu'il y a eu des couples qui se sont créés?
Des couples, il y a des bébés qui vont venir.
C'est vrai?
Ouais. Il y a eu un couple qui s'est formé et des jumeaux qui sont en attente.
Une partie du groupe se retrouvera demain après-midi pour manifester devant la préfecture de Saint-Brieuc.
Les gilets jaunes, 6 mois après, Joanne Moison de France Bleu Armorique.
L'avis de la Haute Autorité de Santé sur le déremboursement de l'homéopathie a fuité dans la presse hier.
Aux grandes dames des laboratoires comme Boiron, qui dénonce une violation du secret et qui a suspendu son cours en bourse. L'avis n'est pas définitif, mais pour l'instant, la Haute Autorité préconise de ne plus rembourser les granules. Voyons ce qu'en pensent des pharmaciens et des clients, Farida Noir.
Dans cette petite officine du 15e arrondissement de Paris, les médicaments homéopathiques ne prennent pas beaucoup de place dans les stocks. Mais Gauthier, le pharmacien, voit tous les jours des patients venir chercher leurs petites granules blanches. Le déremboursement, il a du mal à prendre position.
Est-ce que l'ensemble de la société doit prendre en charge ce type de traitement? C'est une question. Pendant mes études, j'étais plutôt contre l'homéopathie. Et quand au comptoir, j'ai vu le bénéfice que ça apportait aux patients, j'ai un peu changé d'avis. Après, sur les études scientifiques, sur le mécanisme d'action de l'homéopathie, c'est un autre monde.
Thomas, un client, a lui un avis plus tranché.
C'est une imbécilité parce que comme il n'y aura plus de médicaments remboursés, on prescrira des médicaments 10 fois plus chers. Donc c'est pas très bien pour la sécu, contrairement à ce qu'on peut penser.
Aujourd'hui, certains médicaments homéopathiques sont remboursés à hauteur de 30% et coûtent 130 millions d'euros par an à la sécurité sociale, contre 20 milliards pour les médicaments dits classiques. Pour Sabine, qui a déjà tenté de se soigner une fois sans succès avec ses petites granules, il vaut mieux rembourser ailleurs.
La santé a un coût. Moi je trouve qu'il vaut mieux se concentrer sur des médicaments qui sont pour des maladies très graves en fait, qui valent très cher, et je trouve que c'est important de se concentrer sur ça.
La Haute Autorité de la Santé rendra son avis définitif en juin.
Et il reviendra alors au ministère de la Santé de trancher. Farida Noir.
Philippe Martinez a été réélu secrétaire général de la CGT ce matin à Dijon à l'issue du 52e congrès du syndicat.
Il était le seul candidat, il est à la tête du désormais deuxième syndicat derrière la CFDT depuis 2015.
L'architecte de la pyramide du Louvre est mort à l'âge de 102 ans.
C'est François Mitterrand lui-même qui avait choisi de confier le projet de la pyramide au sino-américain Léo Mingpei, comme il l'expliquait à Antenne 2 à l'époque, à l'occasion de l'inauguration du monument.
Si j'ai arrêté mon choix sur Pei, ce chinois américain, c'est parce que j'avais vu à Washington et à Boston deux de ses œuvres maîtresses, un musée en particulier. Vraiment, c'était admirable.
C'est ça, vous avez dit c'est l'homme de la situation.
Et après une conversation, je me suis rendu compte qu'il était l'amoureux non seulement de Louvre, mais de l'histoire de la France, et que jamais il ne commettrait la faute, je dirais même le crime, de nuire à l'ensemble dans lequel nous sommes.
François Mitterrand, il y a plus de 30 ans.
13h09 sur France Bleu, la suite d'une heure en France, c'est le retour d'une coupe de cheveux improbable. La coupe mulet, long derrière, bien dégagée devant et sur les côtés. C'est aussi le rendez-vous annuel de l'Eurovision ce week-end en Israël. Et puis c'est la journée mondiale contre l'homophobie déclinée dans les stades de football. Les capitaines des équipes de Ligue 2 de football ce soir et de Ligue 1 demain vont porter un brassard arc-en-ciel. Les entraîneurs et les arbitres également.
Un brassard aux couleurs du drapeau LGBT comme lesbienne, gay, bisexuel et transgenre en signe de soutien à la journée contre l'homophobie.
Et les choses changent aussi dans le foot. Dès la saison prochaine, les représentants de la Ligue professionnelle feront des signalements d'actes racistes, sexistes ou homophobes.
Et la question se pose aussi d'arrêter un match en cas d'insulte. Le président d'Auxerre a choisi Francis Graille.
Oui, sans aucun doute, il faut arrêter un match. Pourquoi ? Parce que c'est pas possible d'entendre dans des lieux comme des stades de football des propos qui soient insultants, qui soient homophobes ou racistes, c'est impossible. Je crois qu'il faut aussi que les gens prennent conscience que ça n'est pas possible, ni là ni ailleurs, mais là, puisqu'on en parle, dans le cadre d'un match de football. C'est pas suffisant, mais à nous de montrer que ça n'est pas possible. Donc on ne le tolérera pas, et ne pas le tolérer, c'est arrêter le match.
Le président d'Auxerre, Auxerre qui joue un match important ce soir contre Valenciennes dans la course au maintien en Ligue 2. C'était Francis Graille avec Bruno Blanza.
On approche de la Coupe du Monde féminine de football qui débute le 7 juin.
La coupe en question, je veux dire le trophée, c'est 4,6 kg de bronze plaqué or qui font le Tour de France en ce moment avec une escale à Reims qui va accueillir 6 matchs.
Et les 9 villes hautes de la compétition vont voir passer la coupe très protégée. On regarde, on ne touche pas.
Oula Derry, qui travaille à la FIFA, la Fédération Internationale, surveille.
On n'a pas le droit de le toucher avant Manu, à moins qu'on ait déjà gagné le trophée auparavant ou qu'on soit un chef d'État.
Ce n'est pas votre cas.
Exactement.
Donc du coup, quand vous le manipulez, c'est comment ?
Avec des gants. Voilà, on garde un œil sur le trophée, on est une équipe, on est plusieurs à travailler là-dessus. Donc on fait vraiment en sorte qu'il soit constamment sous nos yeux et donc on est vraiment très très attentif par rapport à ça.
Vous n'êtes pas fait des petites frayeurs ?
Non, parce que encore une fois, je la garde vraiment très précieusement près de moi, tout le temps, 24 heures sur 24, littéralement.
Ah bah tiens, il y a un monsieur qui est en train de toucher la coupe, là, il est en train de se faire reprendre par la sécurité.
On ne touche pas, on regarde la Coupe du Monde féminine que l'on suivra de près sur France Bleu.
C'est demain soir le rendez-vous annuel de l'Eurovision.
Les préparatifs ne sont pas simples entre les appels au boycott de rabbins ultra-orthodoxes qui dénoncent la tenue du concours pendant le jour sacré de repos hebdomadaire juif et après des tensions ravivées avec les Palestiniens.
Pour le concours en lui-même, on connaît la musique.
La France est représentée cette année par Bilal Hassani.
Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. I'm not a rich, but I'm shining bright. I can't see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. And I'm oh, 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 even though...
Pour la petite histoire, dans les chœurs de Bilal Hassani demain soir, il y aura Émilie du groupe Madame Monsieur qui représentait la France l'an passé. Vous en rappelez?
Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Émilie a d'ailleurs coécrit la chanson de Bilal.
Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Je vais te remercier.
Évidemment qu'on s'en souvient.
On avait même parié sur eux. On
oui,
a eu.
Bah, on a perdu.
Tout faux. Donc on ne fait pas de pari cette année.
À Cannes, c'est la soirée Almodovar, le réalisateur espagnol pour la 6e fois en compétition et jamais sacré. Il présente Douleur et gloire à son portrait joué par Antonio Banderas.
Ce sera moins glamour au premier festival européen de la coupe mulet en Belgique. Quoique, vous connaissez la coupe de cheveux mulet, appelée aussi coupe longue, long derrière, court sur le devant et les tempes bien dégagées.
Oui, comme David Bowie, Rod Stewart, André Agassi, George Clooney aussi et même Johnny à une époque. Une coupe tombée en désuétude, hein, on se demande pourquoi. Qui reviendrait, si l'on en croit, ce qui suit Sébastien Sabiron.
Le mulet, c'est pouvoir regarder quelqu'un droit dans les yeux et lui dire « je suis libre ».
Gauthier, dans le civil, Michel Godemulet à la scène. Invité avec son groupe à jouer au festival de la Coupe Mulet, ce jeune breton arbore la sienne depuis un an.
Bon mulet, c'est un mulet assumé en fait. C'est vraiment une manière de se dire qu'en fait, c'était pas si important que ça l'apparence. Parce que c'est vrai que c'est une coupe un peu ringarde.
Vous n'êtes pas le seul mulet du moment en tout cas.
Non, non, bien sûr, la communauté mulet commence à grandir.
Comment ça se traduit quand vous croisez d'autres mulets?
C'est tout le temps des petits clins d'œil, tout le temps un petit signe comme ça, un peu comme les motards se font des fois.
Car le mulet est aussi une philosophie de vie. Damien, porte-parole du festival.
Les longueurs symbolisent le côté un peu plus animal qui est en vous, le côté un peu fou, et le devant symbolise le travail. Nous, on trouvait que c'était une belle métaphore de notre approche de la vie.
Front découvert pour y voir clair, nuque protégée du soleil et du froid, le mulet remonte à l'antiquité et ressurgit aujourd'hui.
Même si c'est une niche, elle transparaît dans la mode.
Anaël Martin, coiffeur chez Tony & Guy à Paris.
On l'aime ou on l'aime pas. C'est vraiment une coupe de clivage et en même temps, c'est une coupe qui casse le genre. L'homme peut la porter, la femme peut la porter. une coupe qui rassemble.
Le mulet n'est pas obligatoire au festival, mais des coiffeurs pourront vous tailler la mule, précisent les organisateurs. Ils promettent aussi une balade cyclo-mulet, l'élection du meilleur mulet et les comptes des mulets une nuit.
Le retour peut-être de la coupe mulet pour les femmes aussi. Vous avez testé dans le passé ?
Non, jamais. Non, je ne tiens pas.
Le festival de la coupe mulet a lieu près de Mons, en Belgique.
Et on ne sera pas loin de la Belgique dans un instant avec la cité minière des électriciens dans le nord de la France.
Avant de parler de l'increvable, la machine à laver et d'une vague pour surfeurs bien loin de l'océan. Voilà la météo du jour.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.